Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Julie Labelle. Julie était la première youtubeuse beauté de France. C'est elle qui a importé en France les tutoriels maquillage si populaires aux États-Unis à l'époque. Après plusieurs années d'études et quelques années passées au sein de grands groupes cosmétiques, Julie a souhaité se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat en imaginant une marque de maquillage engagée et naturelle. Son credo ? Des produits qui soient à la hauteur du maquillage utilisé par les professionnels, par les make-up artistes. Le bonus, que ces produits soient naturels bien sûr. Dans cet épisode, Julie nous emmène dans son aventure entrepreneuriale. Embarquez avec nous, c'est parti pour un tour de montagne russe. Bonne écoute à toutes et à tous. Salut Julie.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Ça va très bien et toi Jeanne ?
Ça va très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir au micro de Basilic pour parler de soins cosmétiques. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé cosmétiques au micro en plus, donc c'est toujours sympa, c'est un sujet qui me plaît particulièrement. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ?
Donc moi, je m'appelle Julie Labelle, j'ai 31 ans et je suis la fondatrice de la marque éponyme Julie Labelle, qui est une marque de cosmétiques naturels qui a pour objectif de réconcilier les femmes avec les produits de make-up naturel. Puisque, en fait, j'avais constaté, moi la première, mais aussi du coup en en parlant autour de moi, qu'on était beaucoup à essayer d'améliorer, on va dire, notre façon de consommer et de chercher des produits plus safe. Et en fait, en maquillage, on avait du coup tendance à pas être satisfaite des produits qu'on trouvait. Moi, j'avais tendance à trouver les textures vraiment pas agréables, les couleurs vraiment pas sexy. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour réconcilier les femmes avec tout ça.
Donc avec une gamme de soins de maquillage fabriqués en France et naturels, c'est ça ?
Exactement. Donc là, pour l'instant, la première gamme est une marque, est une gamme vraiment 100% make-up. Donc c'est trois produits qui sont formulés et pensés pour être les plus hydratants possibles. Mais on est vraiment sur les produits make-up. Tous fabriqués en France, naturels, minimum 96% naturels. Et on essaie du coup aussi de faire des choses les plus éco-responsables possibles avec des packagings penser de manière à limiter un maximum notre impact sur la planète.
Génial. On va y revenir, bien sûr. J'aimerais pour commencer qu'on parle de ta relation à la cosmétique, au maquillage. Est-ce que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour toi, qui a toujours été présent dans ta famille, par exemple ? Quelle relation tu avais avec le maquillage depuis l'enfance ?
Alors moi, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas vraiment portée sur la beauté ou le maquillage, mais depuis toute petite, j'étais hyper coquette en fait. Je demandais toujours à ma mère qu'elle me fasse des tresses, des machins et tout. Ça a toujours été quelque chose un vrai moment de plaisir pour moi. Et pareil, ma grand-mère aussi, j'allais piquer dans ses tiroirs, j'allais sentir ses tubes de rouge à lèvres. Il y avait vraiment comme un attrait inexpliqué, on va dire, pour tout ça. Et du coup, j'ai grandi vraiment avec ma maman et tout, qui me faisait jolie pour aller à l'école. Et en fait, en devenant ado, je me suis intéressée davantage à la beauté et surtout aux produits de maquillage. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à une autre dimension du make-up qui était un peu plus artistique, etc., le jeu avec les couleurs. Et c'est comme ça, en fait, que je suis également tombée sur des tutos YouTube et que j'ai découvert le monde merveilleux de YouTube et des youtubeuses beauté. Donc ça, c'était en 2007. Donc ça remonte à un moment. Et maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que la beauté est toujours un moment hyper, hyper important pour moi. J'adore, en fait. J'ai l'impression que c'est mon moment pour moi. Je trouve que c'est plus la dimension artistique que je lui donnais quand j'étais ado, où je pouvais vraiment me faire plaisir avec des couleurs et tout. Mais là, c'est plus sur mon moment à moi, mon moment de gaieté, en fait, du matin, mon petit boost, en fait, de confiance en moi aussi. Et voilà, c'est toujours, du coup, quelque chose qui est présent dans mon quotidien.
C'est intéressant la façon dont tu le décris et dont ça a évolué au fil des années. Donc tu le disais, tu es tombée sur des vidéos de youtubeuses américaines, j'imagine, à l'époque, principalement.
Oui, complètement, c'est ça. En fait, à l'époque, donc c'était en 2007, YouTube avait à peine quelques années, ça venait vraiment d'être lancé. Et je suis tombée sur... en fait, je cherchais, je crois, je sais plus, une coiffure ou quelque chose, et je suis tombée, en fait, sur des youtubeuses américaines qui existent. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'elles ont arrêté. Mais j'ai découvert ça et j'étais vraiment hyper fascinée par tout ce que ça représentait. C'était aussi beaucoup d'échanges à l'époque. YouTube était vraiment une plateforme où tu pouvais répondre en commentaire vidéo à des vidéos qui existaient déjà sur la plateforme. Donc, tu pouvais vraiment créer du lien, en fait, avec les YouTubeurs à l'époque. C'était hyper, hyper fort. Et c'est comme ça, en fait, que moi, je me suis lancée. J'ai répondu en commentaire vidéo à une vidéo. Vraiment pour me faire des copines, quoi. J'avais 17 ans et ça a été le début d'une grande aventure.
Je ne savais pas qu'on pouvait répondre en commentaire vidéo.
Oui, exactement. C'était une fonctionnalité en fait qu'ils ont, je pense, arrêté assez tôt. Mais en effet, tu pouvais répondre en commentaire vidéo et c'était comme ça en fait que aussi on faisait on lançait des concours en fait où tu pouvais du coup participer à des concours en faisant des commentaires vidéo sous les vidéos de tes youtubeurs préférés, quoi. C'était un autre YouTube, on va dire.
Oui, c'était un YouTube beaucoup plus communautaire.
Exactement, ouais, mais c'était d'ailleurs à l'époque, on savait pas du tout qu'on pouvait gagner de l'argent avec. C'était, enfin, le seul but, c'était de partager en fait et de se faire des potes dans le monde entier, quoi. C'était plutôt chouette.
Et donc, toi, tu as grandi avec YouTube, tu as continué à faire des vidéos pendant plusieurs années et ta passion pour le make-up n'a cessé de grandir puisque tu as cherché à en faire ton métier ou en tout cas à travailler dans le secteur des cosmétiques, de la beauté. C'était vraiment ton objectif lorsque tu as entrepris tes études en école de commerce?
Alors, oui et non. En fait, au départ, donc moi, je suis sortie du bac et je me suis lancée dans une licence de langue étrangère appliquée parce que j'étais très bonne en langue et du coup, mes profs m'avaient dit « tu devrais être traductrice ». Donc, bêtement, sans vraiment me poser de questions, tu vois, je suis partie là-dedans et aussi parce que j'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Moi, je viens pas d'une grande ville, j'ai grandi à la campagne et clairement, l'école de commerce, ça n'avait même pas été une option pour moi. Donc, je suis rentrée à la fac, j'ai fait une licence là-bas. Et puis, pendant ma licence, j'ai rencontré un petit ami et du coup, en fait, c'est lui qui m'a parlé de l'école de commerce et qui voulait faire une école de commerce. Et je me suis dit, tu sais quoi, je te suis, vas-y, ça peut être sympa. Et c'est comme ça, du coup, que je suis rentrée en école de commerce vraiment un peu par hasard. À la fac, en fait, c'était vraiment, je me suis rendu compte que bon, la traduction, c'était sympa, mais c'était pas ce qui m'éclatait. Et j'avais eu l'occasion de faire quelques cours de marketing, et je trouvais ça assez intéressant. Donc, je me suis lancée, du coup, j'ai fait un concours, en fait, pour rentrer en admission parallèle en école de commerce. Et je suis rentrée, du coup, à l'école de commerce de Rouen. Et du coup là-bas j'ai fait ma scolarité, mon master et tout, et j'ai eu l'occasion du coup de faire plusieurs stages dans les cosmétiques. En fait, quand j'étais en école de commerce, j'étais du coup à côté de ça, je faisais toujours mes vidéos YouTube. J'étais hyper hyper passionnée par la beauté, et du coup je me suis dit en fait, s'il y a un milieu dans lequel je veux travailler, c'est les cosmétiques. Et donc je faisais tous mes stages, etc., pour découvrir les différents métiers autour, on va dire, du marketing cosmétique. Donc, j'ai fait mon premier stage chez Make Up For Ever en digital marketing. Ensuite, j'ai fait un deuxième stage en branding pour vraiment apprendre sur la construction de marque, etc. Et en sortant de l'école de commerce, j'ai fait mon dernier stage de fin d'études qui m'a ensuite conduite à mon CDI, qui était du coup un poste de responsable, enfin de chef de projet innovation maquillage pour une grande marque de luxe. Voilà.
Et tu y es restée jusqu'à te lancer avec ta marque éponyme Julie Labelle. Combien de temps est-ce que tu restais dans ce grand groupe et à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que finalement, peut-être ça ne te correspondait pas, peut-être que tu avais un petit peu idéalisé cette carrière, mais que tu n'arrivais pas à t'y retrouver.
Alors, en fait, je ne suis pas restée jusqu'au lancement de la marque. En fait, j'ai fait à peu près, je dirais, 4 ans, 4 ans et demi là-bas, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai voulu switcher de poste et enfin d'entreprise. D'ailleurs, je voulais découvrir une autre marque. Et du coup, il y avait un poste qui s'était ouvert pour travailler sur la création d'une gamme de make-up, mais vraiment en mode start-up. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est cool parce que je savais à peu près quand même à ce moment-là que un jour, j'aurais peut-être envie de créer quelque chose. Et du coup, je me suis dit, ça me permettra de me faire mes armes. Donc, je suis rentrée là-bas et c'était également une boîte de luxe. Et j'ai fait 4 mois. En fait, j'ai fait ma période d'essai là-bas et je suis partie parce que je me suis rendu compte en fait que j'étais vraiment pas alignée avec les valeurs et les méthodes de l'entreprise. Et donc, je suis partie vraiment au bout de 4 mois, ma période d'essai en fait. Et c'est comme ça ensuite du coup que j'ai décidé de monter ma boîte. Mais en fait, depuis, on va dire quasiment le départ, depuis que j'ai commencé vraiment à travailler après l'école de commerce, quand je suis rentrée en fait dans mon CDI, je sentais qu'il y avait un désalignement. Enfin, j'étais pas vraiment en phase avec certaines éthiques, certaines pratiques, voilà, la façon dont était traité l'humain, etc. Il y avait pas mal de choses qui me choquaient. Et donc, je sentais, tu vois, au fond de moi que c'était pas la bonne chose à faire, mais je continuais parce que, pas parce que c'était un peu mon rêve et que je me disais que j'avais pas le droit finalement d'être déçue, en fait, et donc, je me mentais un petit peu à moi-même en me disant, bah, c'est pas très grave, c'est pas exactement ce que t'espérais, de l'intérieur, mais finalement, bon, bah, t'es là, donc tu vas rester. Donc, je suis restée, comme ça un petit moment. Et c'est vraiment sur ma deuxième expérience, du coup, que je me suis vraiment rendu compte que, en fait, bon, bah, là, enfin, le schéma se reproduisait, et donc il fallait vraiment que j'y mette un terme et que je me lance pour de bon dans quelque chose qui était vraiment aligné avec mes valeurs et dans lequel je serais plus confortable. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis lancée sur la marque ensuite.
Donc des valeurs à la fois sociales mais aussi écologiques. Dans ta carrière, tu as travaillé au sein de grands groupes qui ne défendent pas forcément les cosmétiques naturels ou en tout cas qui n'en ont pas fait leur produit phare. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de te diriger vers ces produits naturels? Qu'est-ce qui t'attirait dans les produits naturels? Est-ce que c'était le challenge de révolutionner ce secteur-là? Est-ce que c'était des considérations écologiques, des considérations aussi sanitaires?
Alors, en fait, moi, quand j'étais dans ces grands groupes, en parallèle, on va dire, personnellement, j'évoluais en tant qu'humain et je me rendais bien compte que ma façon de consommer changeait. Enfin, je consommais moins. J'ai eu en plus une période, tu vois, où j'ai hyper consommé, je pense comme beaucoup de gens, la fast fashion, la beauté. Moi, en plus, j'étais youtubeuse, donc je croulais, si tu veux, sous les produits. Les palettes de maquillage, j'en avais 850. Enfin, c'était vraiment la surconsommation, on va dire. Et en fait, bah, je pense que comme beaucoup de gens, j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, en fait, tu peux pas continuer à consommer à ce point, on va dire. Et du coup, j'ai vraiment essayé de réduire ma consommation, de consommer plus local, de faire plus attention. Et ça, je le faisais personnellement pour tout le reste, en fait, pour l'alimentaire, pour même la mode, tu vois, je m'achetais moins de choses, j'achetais mieux, mais moins. Et j'avais également envie de le faire sur la beauté. Et en fait, sur la beauté, à ce moment-là, donc moi, je bossais pour des marques de luxe qui, clairement, n'étaient pas du tout dans cette vibe-là. Et à côté de ça, quand je cherchais sur le marché des alternatives, en fait, il n'y avait rien qui me faisait envie. Moi, en fait, j'étais une passionnée de make-up et une passionnée de la beauté en général et des jolis produits. Et en fait, sur le marché, si je voulais quelque chose qui soit à la fois éthique, clean, voilà, des produits dans lesquels je me sente, voilà, aussi en sécurité, et ben en fait, il n'y avait pas grand-chose. Ça ne me faisait pas envie, c'était pas sexy, c'était pas des produits que j'avais envie d'avoir dans ma trousse de toilette et que je serais fière, voilà, d'avoir. Et en fait, du coup, j'ai senti vraiment un manque, en fait. Je me suis dit, ben en fait, si moi je ressens ce manque, il y a peut-être d'autres personnes qui cherchent aussi des produits clean, qui soient à la fois cool et éthique, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé du coup le concept. Et en fait, à l'époque, j'ai même fait un sondage du coup sur Instagram pour demander aux personnes qui me suivaient si Qu'est-ce qui faisait qu'elle ne passait pas au maquillage naturel? Et en fait, il y a eu beaucoup de réponses et toutes les réponses se regroupaient entre différents, on va dire, aspects. Et un des aspects, c'était bah, les produits me font pas envie, les packagings sont pas très jolis, les formules sont pas du tout make-up, elles sont pas pensées pour être vraiment appliquées comme des formules de maquillage. Et voilà. Et donc, tout ça cumulé a fait que j'ai décidé du coup de lancer ce projet.
Il manquait finalement aussi la dimension un peu professionnelle du make-up, des produits versatiles qu'on peut utiliser de différentes façons, puisque toi, tu as créé trois produits qu'on peut utiliser à la fois sur les lèvres, mais aussi comme blush, donc vraiment des produits multifonctions.
Exactement, exactement. Et c'est vrai, tu vois, que en fait, moi, je voulais vraiment créer, en fait, je voulais créer une gamme de make-up avant de créer une marque clean. Je voulais vraiment que ce soit du make-up et que la cerise sur le gâteau, c'était que ce soit clean. Mais que quand tu vois les produits, que quand tu les utilises, tu n'aies pas l'impression que ce soit un truc naturel, pas très... Voilà, j'avais vraiment ce besoin de le penser vraiment comme une marque de make-up haut de gamme, avec des textures vraiment abouties. Et que le clean, ce soit le petit truc en plus, mais que ce soit pas juste, on est une marque clean. Et donc, du coup, bon, bah, on a fait des impasses sur la texture, les couleurs, etc.
Comment ça se passe quand tu avais l'idée depuis longtemps, tu l'as dit, tu quittes cette start-up, tu te retrouves donc sans activité professionnelle après des années d'activité assez intense, j'imagine, vu les groupes dans lesquels tu travaillais, où tu devais travailler beaucoup.
Ouais.
Comment est-ce qu'on s'y prend quand on se retrouve toute seule sur ce projet, d'autant plus que toi, même si tu avais quand même une communauté hein, qui te suivait depuis toutes ces années, tu as vraiment décidé de créer les produits un petit peu dans ton coin. En tout cas, tu n'as pas co-créé les produits avec ta communauté, tu en as assez peu parlé. Tu as dit que tu travaillais sur quelque chose, mais c'était assez secret en fait.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'était assez secret parce que aussi, j'étais pas sûre de pouvoir arriver au bout. Donc en fait, je voulais pas décevoir non plus en disant. En impliquant des gens si c'était ensuite pour échouer. Donc, comment ça s'est passé? C'était en décembre 2018, je crois. Je termine ma période d'essai et je m'arrête pour faire quelque chose qui me ressemble plus. À ce moment-là, j'ai pas encore l'idée. Je sais que j'ai envie de monter une marque de make-up clean, mais je sais pas encore, tu vois, quel est le concept ou vraiment par quel axe je vais passer pour pouvoir lancer ce concept. Donc j'ai eu une grande période de réflexion qui a duré à peu près 6 mois où en gros je cherchais un petit peu l'idée et comment je pouvais positionner le truc, sachant qu'en maquillage en beauté, quand tu lances une marque, c'est très complexe, ça vous demande aussi énormément de financement parce que plus tu fais de formules, forcément plus tu as besoin de faire du développement et donc plus c'est coûteux. Et donc moi j'avais aussi la contrainte de coût puisque je voulais me lancer toute seule, sans investisseur et vraiment, tu vois, lancer un petit truc pour voir. Et donc du coup j'ai vraiment choisi de faire un produit décliné en 3 teintes pour, tu vois, un petit peu tester aussi le produit, aussi voir si la marque plaisait, si le concept plaisait. Et donc ça, cette idée-là du produit multi-usage, etc., elle est arrivée, on va dire, pendant l'été. Et c'est juste après l'été, en fait, je me suis inscrite parce que mon petit copain me cassait un peu les pieds. Il me disait, en gros, de m'inscrire à un bootcamp entrepreneurial, que ça me ferait du bien, etc. Et lui, il était, et il est toujours d'ailleurs, hyper fan de The Family, qui est un accélérateur d'entreprise. Et en fait, il m'a recommandé, il a trouvé ce truc qui s'appelait Gold Up, qui était un bootcamp d'entrepreneuriat pour les femmes qui veulent entreprendre. Et il m'a dit, tu sais quoi, tu devrais t'inscrire. Donc, je me suis inscrite. Et c'est comme ça que je suis rentrée dedans, du coup, dans le bootcamp Gold Up de septembre à... Ça a duré, je ne sais plus, je crois que c'était septembre à décembre, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins.
Et alors, c'est quoi un bootcamp?
En gros, c'est tous les samedis. C'était animé notamment par Alice Aguirre, qui est la fondatrice de The Family aussi, enfin, la cofondatrice. Et en gros, dans ce bootcamp, Il y a beaucoup d'intervenants qui viennent et qui témoignent, notamment des femmes évidemment. Et le but en fait de tout ce bootcamp, c'est de démonter toutes les barrières que tu as pu te créer, on va dire d'un point de vue psychologique, sur pourquoi j'entreprendrai pas. Donc en gros, tous les obstacles que tu pourrais dire comme je suis pas légitime, il va me falloir beaucoup de financement, non mais c'est trop compliqué si je suis toute seule, toutes les choses que tu pourrais te créer pour t'empêcher de le faire, en fait, ils démontent ça via des exemples, ce qui est hyper hyper fort, et ce qui du coup moi m'a mis un énorme coup de pied aux fesses. Et je me suis dit ok, en fait, les barrières que je me crée, elles sont dans ma tête, je peux le faire, et je vais le faire. Et ça, c'était hyper fort, et c'est ce qui a été, je pense, le déclencheur vraiment de passer à l'idée à l'action.
J'avais d'ailleurs reçu au micro Nathalie et Sandra de Perpète qui ont participé au même programme que toi. Et c'est chouette, je trouve, de constater quelques mois après, quelques années après, qu'il y a de belles marques qui voient le jour grâce à ce programme et grâce à tous ces programmes d'accélérateur ou de bootcamp pour aider les gens à se lancer, parce que c'est pas évident. Tu le disais, en cosmétique, la particularité, c'est que plus tu vas vouloir retravailler ta formule, plus ça va te coûter cher. Toi, tu as cherché à avoir, on l'a dit, des formules qui soient assez polyvalentes, qu'on puisse utiliser sur les lèvres, sur les joues. Comment est-ce que tu as travaillé avec le laboratoire? Est-ce qu'ils ont tout de suite compris ce que tu voulais? Est-ce qu'il a fallu faire beaucoup d'ajustements? Comment ça s'est passé?
Alors, ça a été super long. En fait, en cosmétique, tu as deux possibilités, on va dire, en général. Quand tu veux créer une marque, tu as soit l'option où tu prends une formule qui est au catalogue, donc c'est-à-dire que tu as des laboratoires indépendants qui ont déjà en fait des formules prédéveloppées en quelque sorte, sur lesquelles tu peux poser ton étiquette, et en gros ça part en production, et du coup c'est des processus de développement qui sont très rapides, puisque ce sont des formules qui ont déjà été pensées, testées, elles sont en gros prêtes à être produites, et donc du coup c'est très rapide et c'est également moins coûteux, puisque tu n'as pas à payer tous les tests de développement.
Et il n'y a pas besoin d'établir de dossier cosmétique, de...
Exactement. Donc ça, c'est l'option, on va dire, la plus rapide. Mais moi, je voyais pas l'intérêt de lancer un produit s'il existait en fait déjà sur le marché, et c'était, on va dire, un produit finalement sur lequel j'avais juste à poser mon nom, ça n'avait absolument aucun intérêt. Donc du coup, moi, j'ai choisi l'autre option, qui est malheureusement, on va dire, l'option la plus coûteuse, qui est du coup de faire du développement de A à Z. Donc c'est-à-dire qu'on part de absolument rien. On va essayer de faire une formule qui plaît d'un point de vue de texture. Ensuite, cette texture, on choisit les couleurs. Et une fois que tout ça est choisi, tu passes dans les tests pour voir si la texture est stable, etc., si elle tient sous différentes conditions. Et donc, tout ça, c'est un process qui est très lent. Donc, moi, par exemple, tu vois, j'ai commencé, entre le moment où j'ai commencé à essayer la première formule et le moment où elle était validée, il s'est passé 1 an et demi.
Ah oui.
1 an et demi juste pour la forme, trouver la formule et finir les tests.
Donc sans le packaging, sans tout ça.
Exactement. Enfin, en parallèle, évidemment, tu choisis tes packagings, puisque la stabilité de la formule dépend aussi du packaging. En gros, il faut vraiment que ta formule soit compatible avec le matériau que tu utilises dans ton packaging. C'est assez complexe. Mais du coup, tu es vraiment dans un travail de trouver ces deux grands, on va dire, aspects de ton produit, donc formule, packaging, qui vont être ensemble, le combo gagnant pour ton produit, quoi. Et donc ça a pris énormément de temps, et du coup c'était évidemment aussi beaucoup d'investissement. Donc comment ça s'est passé, c'est qu'il y a eu moi j'ai fait un brief, donc en fait j'ai trouvé déjà un laboratoire qui acceptait de travailler avec moi, et ça c'était pas une mince affaire non plus, parce que quand t'es tout petit et que tu fais de toute petite quantité, c'est pas forcément rentable pour les laboratoires au départ de formuler pour toi. Et donc il y avait vraiment le challenge déjà de trouver un labo qui soit compétent et qui soit capable, voilà, de et qui soit ok surtout de m'accompagner sur le projet. Et une fois que j'ai trouvé ce labo, on a du coup développé la formule de A à Z. Donc c'est-à-dire, moi je leur ai envoyé un brief avec tout ce que je voulais en termes de fonctionnalité, en quelque sorte. Il faut qu'elle soit multi-usage, il faut qu'elle soit safe sur les yeux, les joues et les lèvres, etc. Il faut qu'elle ait tant pourcentage de naturalité. Donc, en gros, tu fais un peu ta wish list. Et ensuite, du coup, ça part en formulation. Ils essayent une première fois. Ils te font une proposition. Donc, moi, ils ont commencé par me proposer déjà deux textures très différentes pour qu'on puisse déjà avoir une première idée de vers quelle texture on partait, tu vois. Est-ce qu'on partait sur une texture vraiment très, 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 très fine ou bien une texture un peu plus épaisse, etc. Donc, c'est comme ça, tu vois, qu'on est parti déjà sur une texture. Donc, moi, je voulais une texture qui soit assez pigmentée, mais travaillable en quelque sorte. Et donc, ensuite, on a eu, je te dirais peut-être quasiment, j'en sais rien, au total, j'ai dû tester, je pense, une centaine de propositions avant d'arriver à la formule finale. J'ai été extrêmement, je pense, pénible pour mon laboratoire. Honnêtement, d'ailleurs, à un moment, j'ai cru vraiment qu'ils en pouvaient plus. Mais c'était, enfin, moi, il était hors de question que je lance une formule qui soit pas, dont je sois pas 100% fière. Quoi. Donc, j'ai poussé. J'étais une petite cliente, mais j'ai poussé tout ce que j'ai pu pour pouvoir faire un truc qui soit nickel.
Oui, tu avais un regard d'experte sur les textures, sur la pigmentation, mais finalement, tu n'avais pas forcément les compétences, les connaissances en tout cas sur les ingrédients.
Tout à fait. Alors, j'avais, on va dire, quelques connaissances parce que comme j'avais bossé en innovation, j'étais au contact, on va dire, permanent des laboratoires par mes précédentes expériences. Donc, je comprends, on va dire, leur langage. Et...
Tu sais décrypter un Inky
Ouais, voilà, exactement. Les Inky, et puis je comprends aussi les contraintes de production, les choses comme ça. Donc, on va dire que ça facilitait un petit peu nos échanges aussi avec le labo. Mais après, en effet, moi, j'ai pas du tout une formation chimiste. Donc, et puis je voulais mettre encore une fois la formulation dans les mains d'une entreprise qui était hyper hyper experte sur le sujet. Donc, j'ai bossé avec un super labo. Que je connaissais déjà de mes précédentes expériences, et ça aussi, ça a été super cool.
Et alors, quel ingrédient est-ce que vous avez finalement utilisé? Alors, sans dévoiler toute la liste Inky, parce que ça peut être un peu compliqué, mais quel ingrédient phare est-ce que vous avez souhaité utiliser?
Alors, en gros, moi, je voulais que la formule donc c'est le challenge de cette formule-là, si tu veux, c'est que comme c'est une formule que tu dois pouvoir appliquer partout, il faut qu'elle soit pas non plus trop, trop grasse, mais pas trop sèche, parce que comme tu dois l'appliquer sur les lèvres, il faut qu'elle reste confortable. Donc, il y avait vraiment un curseur à poser entre confort et tenue, en quelque sorte. Donc, on a vraiment, tu vois, fait des allers-retours permanents pour essayer d'affiner la formule et du coup, évidemment, d'affiner les niveaux de cire. Donc, c'est une formule qui est très simple dans le sens où tu as à peu près une quinzaine d'ingrédients. Donc, tu as évidemment beaucoup d'huile puisque l'idée, c'était que la formule soit hyper confortable. Donc, tu as de l'huile de noyau d'abricot, tu as de l'huile de ricin et tu as également des cires qui vont évidemment permettre d'avoir une texture cosmétique. Donc, tu as des cires qui sont des cires végétales. Le produit est absolument vegan parce que je voulais vraiment que tout le monde puisse l'utiliser. Et puis, je voulais essayer aussi d'éviter des ingrédients comme le pigment carmin, qui est du coup un pigment issu de la cochenille, qui est du coup pas très sexy puisqu'il s'agit de... Le pigment carmin, c'est un pigment qui est créé à base d'insectes écrasés, ce qui est pas forcément hyper sexy. Donc du coup, l'idée c'était vraiment, si tu veux, de faire une formule absolument clean, naturelle, mais pigmentée et confortable. Donc confort avec les huiles et pigmentée. Pour ça, du coup, on a utilisé des pigments synthétiques. Donc les pigments sont les seuls ingrédients qui sont synthétiques dans la formule parce que je voulais qu'à la fois la formule puisse être végane, mais je voulais également que les formules soient avec des couleurs qui soient vraiment des couleurs qu'on prenne plaisir à mettre, pas des couleurs un peu vieillottes, etc., mais des couleurs peps. Et voilà. Et comme je suis une passionnée de la couleur, c'était pour moi indispensable qu'on ait des pigments du coup qui soient hyper hyper jolis et hyper colorés dans nos formules.
Et qui correspondent à toutes les peaux.
Exactement, exactement. Donc les trois premières teintes, et ça a été aussi un grand challenge, les trois premières teintes ont été testées sur énormément de carnations. L'avantage en fait de la formule, quand on l'a pensée, c'est qu'on a essayé de la rendre la plus modulable possible, c'est-à-dire que tu peux à la fois moduler l'effet, elle est mate si tu chauffes pas la matière, mais comme il y a des huiles qui sont thermoréactives dans la formule, si tu chauffes la matière, elle devient brillante. Et je voulais également qu'elle soit modulable dans le sens où tu puisses moduler la couleur sur les carnations et que du coup, par exemple, si t'as une peau claire, que tu vois, tu puisses avoir un voile léger, par exemple, de rouge et que par contre, si tu veux monter, on va dire, la couvrance, etc., tu puisses aussi. Donc, on a vraiment testé ces trois premières couleurs. Donc, il y a un rouge, un rose, on va dire, beige et un teinte beige irisé pour pouvoir vraiment, si tu veux, faire un look un peu complet au quotidien.
J'imagine que comme pour toutes les personnes qui passent au micro et qui entreprennent ce type de projet, ça a été un peu les montagnes russes, que tu es passé par toutes les émotions. Est-ce que tu t'étais préparée à ça? Est-ce que tu te rendais compte des émotions qui allaient te traverser en te lançant dans une telle aventure? Tu le disais, tu ne te sentais pas à ta place en entreprise. Pour autant, j'imagine que ça n'a pas été facile par la suite, mais tu t'es toujours sentie à ta place.
Alors oui, en fait, tu as complètement raison, ça a été une montagne russe d'émotions, ça c'est le cas de le dire, ça a été, honnêtement, je ne sais pas si j'avais su, est-ce que si j'avais su que c'était aussi difficile, je l'aurais fait, je ne suis pas certaine, je crois que c'est Oussama Ammar de The Family qui dit qu'une des principales qualités d'un entrepreneur, c'est parfois son ignorance, et je pense qu'en effet, le fait que je ne savais pas à quoi m'attendre et tout ce que ça, finalement, ça... Tout ce que l'entrepreneuriat comprenait, je pense que ça m'a aidé en fait à me lancer. Si j'avais su que c'était difficile à ce point, je l'aurais peut-être pas fait parce qu'encore une fois, j'ai fait toute seule. Je suis solo vraiment sur le projet. J'ai évidemment mes proches, etc., qui me soutiennent, mon copain qui a été d'un soutien sans faille, etc. Mais mine de rien, je monte le truc solo et donc ça a été vraiment psychologiquement parfois un peu difficile. Il y a eu beaucoup de difficultés et d'échecs, tu vois, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi et c'est normal parce que finalement quand tu lances et bah t'apprends, mais du coup ça a été honnêtement et psychologiquement parfois un peu complexe. Il y a eu des moments très 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 down au cours de l'aventure, et bizarrement c'était les moments les plus c'était les débuts qui ont été les plus difficiles. Une fois que c'était en fait à peu près lancé, et surtout une fois que tu as déjà eu quelques moments down, tu apprends à relativiser aussi. Mais en tout cas, peu importe, tu vois, les moments down, etc., j'ai jamais remis en question mon choix. Je me suis jamais dit j'aurais pas dû le faire. Je suis convaincue aujourd'hui que c'est ce qu'il fallait que je fasse, et je suis très contente de mon choix, et je me suis jamais dit que j'aurais dû faire autre chose ou que je faisais une erreur, quoi. C'était juste, c'est dur.
C'est dur, mais tu as bien fait t'accrocher puisque le lancement a été un vrai succès. Les produits ont été commandés, appréciés, recommandés. J'imagine que tu étais très fière, que ça t'a ôté un stress aussi.
Complètement, oui, complètement. C'est vrai que tu sais pas trop à quoi t'attendre au moment où tu lances le truc. Tu sais qu'il y a tes parents qui vont commander, ta tante, potentiellement, ta grand-mère. Mais après, tu sais pas trop à quelle ampleur ça va fonctionner en quelque sorte. Moi, je suis partie avec l'idée de m'attendre à pas grand-chose. Je me suis dit que c'était un pari en fait que je faisais et que au pire du pire, j'avais essayé et c'était déjà énorme pour moi d'être allée au bout. Je me souviens au tout début de mon projet, et c'est quelque chose que j'ai répété pendant tout le long de la création. Je disais toujours à mes parents, tant que je vais au bout, je serai déjà super heureuse en fait, d'y arriver en fait. Parce que j'étais vraiment persuadée que c'est... Et plus le projet avançait, plus les difficultés arrivaient, plus j'avais l'impression que c'était impossible que j'arrive au bout. Et du coup, quand c'est arrivé et que j'ai pu lancer le projet, déjà c'était ma première victoire. Et de voir ensuite que les produits plaisaient, tu vois, là il y a beaucoup de gens qui recommandent des produits, les eaux teintes, etc. Donc preuve que la texture plaît, que le produit plaît, que la marque et les packaging plaisent, etc. Et donc ça c'est vraiment hyper hyper gratifiant. Et là tu vois, on a une des teintes. La teinte rose qui est quasi sold out, et pourtant on avait fait des centaines et des centaines et des centaines d'unités, donc c'est plutôt chouette.
C'est génial. Et puis j'allais préciser, on l'a dit, tu as été youtubeuse mais tu avais arrêté depuis un moment, donc même si tu as une communauté qui te suit, tu n'étais plus active. C'est pas du tout un lancement avec une communauté derrière toi comme ça peut être le cas pour certaines personnes qui sont toujours dans ce monde de l'influence.
Oui, complètement. Enfin, moi, oui, ça fait un moment que j'avais arrêté sur YouTube. J'avais toujours un compte Instagram, mais c'est vraiment un compte que j'anime par hobby. Je partage, on va dire, plus des choses un peu quotidiennes ou des pensées ou des choses comme ça. Les personnes qui ont du coup commandé, ça a été J'imagine beaucoup de personnes du coup qui me connaissaient depuis longtemps, mais aussi du bouche à oreille. Là, je vois qu'il y a, pas mal de gens qui arrivent et qui ne me suivent pas. Donc ça, c'est plutôt aussi bon signe. Là, voilà, le prochain step du coup, c'est d'arriver à sortir vraiment, à atteindre, on va dire, plus de monde et du monde qui connaissait pas, on va dire, mon histoire ou qui m'ont pas connue forcément en tant que youtubeuse, etc. Et voilà, ça, c'est un des prochains challenges.
Est-ce que tu as le souhait de faire distribuer tes produits dans certaines boutiques, dans certaines enseignes? C'est une volonté que tu as ou pour l'instant, tu préfères tout concentrer sur ton site internet?
Alors, pour l'instant, en tout cas, au lancement, ça a été 100% concentré sur le site internet. J'avais pas, on va dire, pour vous... En fait, je me suis dit, je me poserai la question en temps et en heure. Tu sais, il y a tellement de sujets, on va dire, à traiter au quotidien que finalement, le sujet de la distribution aujourd'hui n'est pas un frein. Si tu veux, je suis distribuée 100% en ligne sur mon site internet et aujourd'hui, pour l'instant, c'est suffisant. Maintenant, un de mes kiffs, ce serait peut-être un jour, tu vois, d'être chez Oh My Cream, etc. Mais ça, ce serait super, ça me ferait trop plaisir. Mais tu vois, c'est pas, en tout cas, c'est pas, ça fait pas partie de ma stratégie pour l'instant de distribution. Ce serait plus une réalisation pour moi super chouette d'être distribuée là-bas que vraiment un truc indispensable pour aujourd'hui pour ma stratégie.
Ok, donc ce sera plutôt au feeling ou selon les opportunités qui se présenteront.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Et quand tu regardes tout le chemin parcouru, on en parle avant l'épisode, on a le même âge, et que tu regardes la Julie qui s'est lancée il y a quelques temps sur YouTube, qui a fait cette école de commerce alors que on lui en avait pas forcément parlé avant, que c'était pas un sujet dans ta famille, etc. Tu portes quel regard sur tout ça? Comment tu le vis?
Honnêtement, tu vois, je suis assez fière finalement du parcours. Je suis assez fière en fait de voir à quel point la vie t'amène au bon endroit. Parfois, ça prend du temps, mais c'est clair que quand j'étais ado, en plus, tu vois, moi, comme je te le disais, je viens pas d'un milieu forcément hyper businessy. Voilà, mes parents étaient poissonniers, donc clairement, tu vois, on est loin de la cosmétique. et vraiment, tu vois, j'ai pas grandi avec l'idée que je pourrais faire quelque chose dont je serais fière, en fait, je pense. Et du coup, le fait de faire un truc aujourd'hui qui plaît, qui regroupe du monde, c'est une très grande fierté. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup, Julie. C'était très chouette d'échanger avec toi, que tu nous parles en toute transparence de ton aventure avec Julie Labelle. C'est un chouette projet et ça fait du bien aussi de voir que le secteur du maquillage naturel... qu'il y a de nouvelles têtes qui arrivent, que ça évolue un petit peu, que les envies aussi évoluent. C'est très chouette que ça se professionnalise, non pas que les marques qui étaient là avant étaient amatrices, mais dans le sens d'un maquillage professionnel et artistique.
Oui, c'est vrai. Bah, écoute, je suis très contente que le projet te plaise et que la marque te plaise. Et puis, merci de m'avoir accueillie au micro. Ça me fait très plaisir d'avoir pu échanger avec toi.
À bientôt, Julie. Salut.
À bientôt, Jeanne. Merci beaucoup.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur Julie et ses merveilleux produits, rendez-vous dans la barre de description de l'épisode. Si cet épisode, inspirant et bienveillant, vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage ou sur les réseaux sociaux. De mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.